Bonsoir, c'est un plaisir pour nous d'être avec vous. Ce week-end, je vous transmets les salutations de Greenville. Nous sommes très reconnaissants pour le soutien de cette congrégation, pour la manière dont vous nous avez toujours soutenus. Vous avez toujours aidé nos étudiants. Il y a un grand nombre d'étudiants qui ont terminé leur formation et qui sont en train de faire le travail pour lequel le Seigneur les a formés. Et l'école théologique est très reconnaissante pour votre générosité. Et plusieurs congrégations que vous et moi n'ont pas l'opportunité de visiter, mais vous êtes un exemple à plusieurs personnes. Nous parlons en ce week-end de la doctrine de la sanctification. Surtout, nous avons titré cette session La croissance dans la grâce, la croissance dans la grâce. Cette phrase, croire dans la grâce, est prise de la fin de 2 Pierre. La deuxième épître de Pierre a écrit par l'apôtre à la fin de son temps, lorsqu'il savait qu'il allait mourir, quand il a dit dans la première partie de ce livre, il a dit qu'il va quitter le corps mortel pour être avec Dieu. À la fin de ce livre, ses dernières paroles à l'église, l'apôtre Pierre dit, croissez. Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Vous voyez, ce sont les dernières paroles enregistrées que nous avons de l'apôtre Pierre. Croître dans la grâce. Nous allons voir cela cette nuit et demain matin. C'est très important de considérer cette question sur la sanctification parce qu'il y a une grande confusion dans les églises évangéliques. Une confusion avec notre dénomination concernant cette doctrine. Même si vous voyez les réformateurs, les penseurs de l'Église presbytérienne, la notion de la sanctification, c'était un sujet sur lequel il y a eu beaucoup d'écrits, beaucoup de discussions par les théologiens. Avec tout cela, avec tout ce préliminaire, ces sujets d'introduction, je voudrais que vous ouvrez vos Bibles dans Éphésiens chapitre 2. Éphésiens chapitre 2. Nous allons lire à partir du verset 1 jusqu'au verset 10. Et nous allons voir cela, mais ce soir, ça sera une partie centrale qui va nous servir d'un point de départ pour voir les autres choses que nous allons lire dans cette session. Éphésiens chapitre 2. À partir du verset 1 jusqu'au verset 10, rappelez-vous que ce que nous lisons, c'est la parole de Dieu. Et vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage ayant été créés en Jésus-Christ pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Ce soir, je voudrais que nous commencions avec la considération de la nature de notre salut et particulièrement la manière dont l'apôtre Paul a parlé de ce salut dans Éphésiens chapitre 2, a parlé du fait que c'est pas la grâce. Dans le verset 5, il a dit, et dans le verset 8, il a dit la même chose. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Et si vous devez poser la question, quel est l'aspect particulier de notre salut, l'angle particulier de notre salut dont l'apôtre Paul est en train de mettre l'évêque ici, nous avons deux réponses. D'abord, c'est l'union avec Christ. quand nous voyons cela dans la section suivante ici, il dit également dans le verset 4 et le verset 5, l'apôtre Paul dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, mais Dieu qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. Ce à quoi l'apôtre Paul se réfère ici, c'est la doctrine de la régénération. La régénération, la doctrine de la nouvelle naissance. Nous étions morts, mais nous sommes ramenés à la vie par Christ. C'est quelque chose que vous savez que Jésus-Christ lui-même a parlé de cela en des termes très clairs. Lorsqu'il parlait à Nicodème, il a dit, tu dois naître de nouveau, personne ne peut entrer dans le royaume des cieux à moins que la personne naisse de nouveau. Et l'apôtre Paul ici, en parlant de la grâce qui nous sauve, parle de la grâce qui est capable de nous faire sortir de l'état de mort spirituelle pour nous donner la vie dans le monde spirituel. Pourquoi est-ce que cela est très important et significatif? D'abord, c'est important parce que cela traite de la destinée éternelle de l'âme des individus. Il y a Archibald Alexander qui a dit dans les questions de la préparation au salut, il a dit, quand il comparait le salut aux autres choses importantes, il a dit le salut de l'âme est très important. Je pensais à cela, il y a de cela quelques années, nous avons une conférence de Spring, et l'année passée, la conférence passée de l'année passée, qui s'est passée il y a de cela un an et trois mois, à cette conférence, un de nos amis, un ami de la famille du séminaire, il était un peu malade et il me parlait de comment il se sentait. Et le lundi d'avant la conférence, l'année passée, j'ai eu un appel de son mari et qui m'a dit qu'il y a quelque chose que vous ne savez pas, nous ne voulons pas alarmer qui que ce soit, je vais te dire que quelque chose, c'est comme si quelque chose se passe mal. Et c'était 5 semaines de ce moment qu'elle était dans la présence du Seigneur. Et quand elle était avec nous, ce frère qui suivait, il s'est levé le matin, il a dit à sa femme, ça peut être moi, mais il a dit après 5 semaines, ça peut être quelqu'un d'autre. La réalité d'être proche du temps de la mort, nous ne savons pas quand est-ce que cela peut arriver, mais c'est aussi très proche. Vous voyez, c'est ce que Archibald Alexander a dit, que nous devons considérer le sujet du salut comme la chose la plus importante et les autres sujets comme des choses qui sont secondaires. Et l'apôtre Paul, en parlant du salut, dit que lorsque nous étions morts dans nos péchés, Dieu nous a ramenés à la vie ensemble avec Jésus-Christ. Nous sommes nés de nouveau par la puissance du Saint-Esprit. Pourquoi est-ce que le sujet du salut est très important? Pourquoi est-ce que c'est central, même dans la prédication de Jésus? Pourquoi le sujet de salut est très important dans le livre d'Éphésiens qui met en exergue la grâce de Dieu? La raison pour laquelle ça joue un rôle central, c'est que la parole de Dieu, la Bible, est très claire que par nature, l'homme est pécheur. Et l'apôtre Paul dit que par nature, nous sommes tous morts et pécheurs à travers nos péchés. Parce que à cause des péchés de nos parents, par nature, nous sommes nés dans le péché, nous sommes éloignés de Dieu. Et également, le péché, l'apôtre Paul dit dans Tite chapitre 1, que rien n'est pur. Jérémie dit que Jérémie dit clairement que le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout qui peut le connaître. Jésus dit c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. L'immoralité, tout ce qui est impur vient à travers la parole. Quand vous voyez le péché, le problème du péché, tout ce qui nous arrive, on nous a dit dans les dernières semaines, nous parlons et nous nous demandons pourquoi est-ce que cela arrive dans le monde. Parce que la Bible dit que par nature, nous sommes souillés, nos cœurs se sont éloignés de Dieu, nos cœurs sont incrédules et souillés. Et ce que nous voulons dire, que c'est un enseignement biblique, nous pouvons tirer beaucoup de leçons, beaucoup d'exemples de la Bible. La Bible vous dit, il ne faut pas suivre votre cœur. La culture dit, il faut suivre votre cœur. Il faut suivre votre cœur. Mais la Bible dit que le cœur est tortueux par-dessus tout. Qui peut le connaître? Qui peut le comprendre? Ce que nous voulons, nous devons avoir, c'est d'avoir la vie en Jésus-Christ. Et je vais vous rappeler que les paroles du Seigneur Jésus-Christ, il a dit que si quelqu'un est né de nouveau, il ne peut voir le royaume des cieux. Mais la bonne nouvelle des Écritures, c'est que le besoin que nous avons, qui consiste à avoir la transformation de notre cœur, qui est par nature éloigné de Dieu, cette transformation de notre cœur, c'est en réalité quelque chose dont la Bible, le Nouveau Testament nous enseigne au sujet de cela. Moïse, lorsqu'il a apparu devant le peuple dans Deutéronome chapitre 30, il a dit au peuple, vous avez cette alliance de la circoncision, le signe de la circoncision, mais ce dont vous avez vraiment besoin et ce que le Seigneur veut que vous ayez, c'est que vous circoncisez votre cœur. Et Moïse a identifié ce qui était mal, ce qui avait le problème avec le peuple, c'était qu'il avait un cœur qui était impur et il devait circoncire le cœur. Et le Seigneur parle au prophète, il a dit, je vous donnerai un nouveau cœur, un nouveau esprit, et je vais enlever de votre cœur le cœur de pierre et je vais vous donner un cœur de chair. Et nous voyons cela clair dans le Nouveau Testament, non seulement dans Éphésiens chapitre 2, mais c'est dans d'autres épîtres de l'apôtre Paul. Il a dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Voici, les choses anciennes sont passées et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Jérémie a parlé de cela. Il a pris les paroles de Moïse et il a dit, il faut circoncire votre cœur, il faut enlever la prépuce de votre cœur. Le Nouveau Testament dit, Dieu par le Saint-Esprit fait cela à ceux qui sont en Christ. C'est un test merveilleux. Jésus-Christ a dit cela dans Jean chapitre 3 et Ézéchiel chapitre 36. Et le Seigneur dit, je répandrai sur vous une eau pure et vous allez être purs, je vais vous purifier de toutes vos iniquités. Je vais vous envoyer mon esprit, de mon esprit. Et quand vous lisez cela dans le Nouveau Testament, vous allez voir que le problème dans le Nouveau Testament à travers la Bible, que ce soit l'Ancien Testament qui parle d'un nouveau cœur, d'un cœur nouveau, de la circoncision du cœur. Dans le Nouveau Testament, ce que nous voyons, le Nouveau Testament donne trois différents termes pour décrire cette œuvre de la nouvelle naissance. En Tite chapitre 3, l'apôtre Paul utilise cette terminologie. Il nous dit qu'il nous a sauvés par les œuvres que nous avions eu à accomplir dans la justice, mais par sa propre miséricorde à travers la régénérescence, à travers le renouvellement du Saint-Esprit. Il nous a sauvés, non à cause des œuvres de la justice. Pierre a dit que c'est par sa grâce que nous sommes nés de nouveau. Et c'est ce que Pierre a dit. Il a dit que tous ceux qui sont nés, la Bible dit que tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, non pas de la chair, mais de l'esprit. Et nous avons une autre métaphore dans Éphésiens chapitre 2, la résurrection spirituelle, partir de la mort pour avoir la vie éternelle. Et c'est la résurrection spirituelle. Nous devons comprendre cela concernant notre propre salut. Généralement, lorsque nous parlons de la grâce de Dieu, c'est important de savoir que il y a des gens qui veulent penser à cette nature, à cette manière traditionnelle. Dieu nous déclare juste devant Dieu. Et ça, c'est une vérité glorieuse, la vérité de la justification. Nous pensons parfois au pardon des péchés que nous avons en Christ. Nous nous regardons et nous disons, ah, je ne crois pas qu'il y a la possibilité pour moi de mériter ce pardon. Dieu ne peut, je ne peux pas avoir cela. Je ne peux pas avoir le pardon. Mais c'est par la grâce de Dieu. Mais quand l'apôtre Paul parle de la grâce de Dieu dans notre salut, il dit dans d'autres parties, c'est la tradition, la nature des traditions. Il dit que le pardon qui nous a été donné ici, il parle de la grâce de Dieu dans notre salut. Lorsqu'il répond à la question, l'apôtre Paul, s'il était devant nous et que vous lui posez la question, qu'en est-il? Pourquoi est-ce que c'est la grâce seulement qui nous sauve? Il va vous poser la question, comment? Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Parce que nous étions morts dans nos péchés et Dieu nous a redonné la vie en Jésus-Christ. Nous avions un cœur de pierre et il nous a donné maintenant un cœur de chair. Nous avions un cœur qui était détourné de lui et il nous a circoncis le cœur pour que nous puissions nous tourner à lui. Il a déversé sur nous son esprit. Il nous a donné le don de la vie éternelle, de la vie nouvelle et de la vie éternelle. La question que vous pouvez vous poser à ce moment, comment est-ce que cela arrive? Comment est-ce que cela peut se produire? Comment est-ce que la Bible enseigne que quelqu'un peut partir de la mort spirituelle à la vie spirituelle? Comment quelqu'un peut quitter du cœur de pierre à un cœur de chair? La Bible est claire sur comment ça se passe. Et ça, c'est important de l'application initiale pour comprendre clairement la doctrine de la sanctification. La Bible est claire que la manière dont Dieu fait cela, la manière dont Dieu accomplit cela dans le cœur de ceux qui se tournent vers lui, il leur donne une nouvelle vie spirituelle pour les amener à être nés de nouveau par l'Esprit. La manière dont Dieu le fait, c'est à travers la prédication de sa parole. Et la parole de Dieu dans la Bible travaille ensemble avec l'Esprit de Dieu pour accomplir la parole de Dieu. Vous allez voir cela plusieurs fois dans la Bible. Vous pouvez lire dans la Bible, vous allez voir là où on a mentionné l'Esprit de Dieu, que ce soit dans l'Ancien Testament ou le Nouveau Testament. Vous allez remarquer que la description de la parole de Dieu, de l'Esprit de Dieu, c'est toujours accompli par la parole de Dieu. L'Esprit de Dieu utilise la parole de Dieu pour accomplir l'œuvre de Dieu, surtout le travail de la transformation spirituelle. C'est pourquoi lorsque Pierre a parlé de la nouvelle naissance, il a dit, béni soit notre Seigneur Jésus-Christ. Quand il parle de celui qui fait l'œuvre en nous, il dit, vous avez été sauvés, pas par une semence périssable, mais à travers une semence incorruptible, à travers la parole de Dieu. Et Jacques, en parlant de cela, de la nouvelle naissance qui s'opère, il dit que c'est par la volonté de Dieu qui nous a fait, par la volonté de Dieu, il nous a engendrés selon sa volonté, par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces écritures. Le besoin de la proclamation de ces écritures, il dit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Comment Dieu, la parole de Christ, affecte la nouvelle naissance? C'est à travers la proclamation de Christ, à travers sa parole. Et nous voyons cela, même Jésus-Christ a donné la commission à ses apôtres dans Jean chapitre 17. Je ne sais pas si vous avez vraiment fait attention à ce grand chapitre, à ce chapitre merveilleux, quand Jésus-Christ a fait la prière sacerdotale. Vous savez que cette prière a été subdivisée en trois sessions. D'abord, Jésus-Christ a prié pour que le Père se glorifie à travers les œuvres que Jésus-Christ va faire à la croix. Et Jésus-Christ a dit, il y a plusieurs prières, je prie, il a dit, pour que le Père soit glorifié, le Père soit révélé à travers le Fils. Et Jésus-Christ a continué dans la deuxième partie de la prière à prier pour les apôtres, ceux qui sont avec lui. Il a prié pour qu'ils soient protégés, pour qu'ils soient sanctifiés. Et dans la troisième section, il a prié pour toi, pour moi, si nous sommes des croyants. Parce qu'il a continué à dire, je ne prie pas seulement pour eux, mais aussi pour ceux qui vont croire en moi à travers leurs paroles. Et vous voyez, c'est exactement ce qui arrive, ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est que vous écoutez la parole de Dieu, quelqu'un qui est proche de vous, Jean 3, verset 16, il vous prend jusqu'à le Romain. Et quand vous écoutez cela, ce sont des paroles inspirées de l'apôtre à travers ces paroles, quand vous lisez, vous écoutez, vous vous soumettez à la prédication de la parole de Dieu, la parole vous change. L'Esprit de Dieu prend la parole de Dieu pour accomplir l'œuvre de Dieu dans votre vie. Et nous voulons dire ici que si c'est vrai que la grâce de Dieu est agie dans le salut, à travers le salut est démontré à travers la nouvelle naissance, le miracle de la nouvelle naissance qui est essentiel. Alors, la grâce de Dieu affecte cette nouvelle naissance à travers la parole de Dieu. Et donc, nous pensons à toutes ces choses en quoi, auxquelles nous croyons pour voir les hommes et les femmes sauvés. Toute forme de technique et de programme et d'idées que nous pouvons avoir. Qu'est-ce que les Écritures disent? Les Écritures disent que c'est la parole de Dieu, l'Esprit de Dieu qui accomplit cette grande œuvre. David Dixon, un puritain, a dit cela dans ses termes. Il a dit que la première opération de l'Esprit de Dieu, celui qui circoncile le cœur, c'est de pouvoir humilier le cœur, l'homme dans le sens de son péché par la doctrine de la loi et de lui ôter toute confiance dans sa propre valeur, son intelligence, son libre arbitre et sa force pour céder lui-même de sorte que l'homme n'ait aucune confiance dans la chair. L'Esprit de Dieu dit clairement de l'Évangile qui amène quelqu'un à avoir la vie spirituelle nouvelle. Et c'est de cette manière que cela fonctionne encore et encore dans les Écritures. C'est très important de comprendre que toujours Alexandre, qui est mon héros historique, il dit, lorsque cela s'accomplit, lorsque cette implantation de la vie spirituelle s'accomplit, c'est un événement, il dit que c'est un événement, la conséquence ne va jamais prendre fin. Il dit que c'est très important de comprendre que quand on parle de la doctrine de la sanctification, nous commençons au début. Parce qu'au début de la doctrine de la sanctification, c'est en relation avec l'œuvre du Saint-Esprit, l'œuvre que le Saint-Esprit fait en leur donnant un nouveau cœur, en leur donnant un esprit, l'esprit à son peuple. Le Seigneur alors accomplit cela, en leur donnant les commandements, des instructions. Il y a des choses que nous ne devons pas faire. Il y a des manières par lesquelles nous ne devons pas agir. Nous ne devons pas proclamer simplement la parole de Dieu qui tombe dans les oreilles sourdes, non. Et l'implication de cela, c'est que les moyens que Dieu utilise, c'est la prédication de la parole. Les moyens que Dieu utilise pour l'évangélisation efficace, c'est la parole de Dieu. Et l'Esprit de Dieu utilise la parole de Dieu. Et la deuxième implication et la deuxième question, peut-être la première question que vous devez vous poser, lorsque vous commencez par considérer comment est-ce que c'est important, l'importance de cette doctrine, c'est la question que Jésus lui-même pose d'une manière implicite à Nicodème. Est-ce que tu as fait l'expérience de cette nouvelle naissance? Est-ce que tu es né de nouveau? Est-ce que Dieu a œuvré dans ta vie? Est-ce que tes affections sont changées par son Esprit Saint à travers la prédication de la parole? Est-ce que tu comprends que tu étais pécheur devant lui et que maintenant tu comprends que tu as besoin d'être sauvé? Tu comprends Christ comme celui qui sauve les pécheurs et dont l'œuvre à la croix est suffisante pour pouvoir donner le salut. Est-ce que tu crois en cela? C'est intéressant de savoir, dans Actes chapitre 10, Pierre a commencé par partager la parole avec ceux qui étaient avec lui, ce que Jésus leur a enseigné concernant la prédication. Et c'est une chose très importante. Pierre parle de tout ce que Jésus a fait et enseigné. Et il dit, et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple. Il nous a dit de prêcher au peuple. Et qu'est-ce que Jésus-Christ a dit aux apôtres de dire? Il a dit, Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage. C'est comme cela que la prédication apostolique a commencé. Cela a commencé par, tu l'aimes ou pas, que tu veux repousser cette vérité ou pas, c'est la foi en Christ qui donne le salut. Et la deuxième partie de ce sermon, Pierre dit, Jésus nous a enseigné aussi pour attester que c'est lui qui est établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Tous les prophètes rendent le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Donc, nous sommes confrontés à ceci. Cette question personnelle que nous pouvons nous poser, c'est de savoir, est-ce que tu as expérimenté la résurrection spirituelle dont Paul parle ici, dont Pierre parle ici? Il dit, donc, la Bible dit que c'est essentiel à notre salut, c'est Dieu qui opère cette opération du salut. Comment est-ce que, quand Dieu accomplit cela dans nos vies, pour soutenir la parole de Dieu, que Dieu nous donne la parole et l'œuvre que Dieu a accomplie. Il y a d'autres questions que nous pouvons nous poser en ce moment, y compris cette question. Quelles sont les implications de cette nouvelle naissance? Si c'est en réalité c'est central à la doctrine du salut, si c'est ça le fondement, l'élément fondamental, lorsque nous disons que le salut vient par la grâce seulement, si c'est aussi central à l'évangile de grâce, alors quelles sont les implications pour la vie, dans la vie de celui qui a expérimenté cela? Quelle est l'implication dans la vie de celui qui a expérimenté cela? La foi de celui qui a été transformé. C'est important de le savoir parce que ça accomplit toujours un effet, la nouvelle naissance. Deux effets que cela, la nouvelle naissance apporte dans la vie du croyant, de la doctrine de la sanctification. D'abord, l'effet premier, c'est que la Bible dit que ceux qui ont expérimenté cette nouvelle naissance, qui ont quitté la mort à la vie, ils ont une nouvelle identité. Et leur identité, maintenant, est en Jésus-Christ. Ils sont appelés fils de Dieu, ils sont identifiés au fils de Dieu, ils sont nés de nouveau par Dieu à travers le Saint-Esprit. Ça voudra dire que nous avons une nouvelle manière de nous regarder. Nous ne pensons plus à nous-mêmes par rapport à nos vulnérabilités, à nos appétits, à nos passions. Nous ne pensons plus à nous-mêmes comme des enfants du diable, comme les enfants du monde, mais nous pensons à nous comme des enfants de Dieu. Regardez comment Paul a contrasté sa vie ancienne par rapport à la vie nouvelle que Dieu lui a donnée. Qu'est-ce qu'il a dit dans Éphésiens chapitre 2 quand il dit « Je suis mort dans mes péchés » quand il dit « Nous étions morts dans nos péchés, nous étions tous morts » et il s'identifie comme quelqu'un qui était mort. Sa vie était semblable à cela, mais il dit « Nous étions » Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Nous accomplissions les désirs de notre pensée et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Et l'apôtre Paul dit en dehors de la régénération, qu'est-ce que nous devrions être? Nous étions comme des gens qui étaient définis par leur passion, par leur pulsion, par leur désir, qui étaient définis par la culture dans laquelle ils vivaient, le monde dans lequel ils vivaient. Ce sont les choses qui identifiaient Paul. Mais Paul savait. Il savait beaucoup de choses sur l'identité. L'identité veut dire beaucoup de choses dans notre culture, dans notre monde, et de différentes manières. Mais ce que l'apôtre Paul dit aujourd'hui en parlant de l'identité, de la nouvelle naissance, il savait ce que ça voulait dire d'être identifié avec les traditions, avec certaines marques qu'on peut avoir en étant différent des autres. Paul, à un moment dans ses lettres, décrit son identité. Il dit, avant de recevoir cette nouvelle naissance à travers Jésus-Christ, il le dit de cette manière. Vous connaissez très bien ce passage. Quand vous avez lu le Nouveau Testament dans Philippiens, chapitre 3, il avait la confiance. Il avait la confiance. Il a dit que si quelqu'un veut avoir confiance à la chair, il dit non. Moi aussi, cependant, j'aurai au sujet de mettre ma confiance à la chair. Si quelqu'un
quelque autre croit pouvoir se confier à la chair, je le suis bien davantage. Moi, circoncis le huitième jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu de né d'Hébreu, quant à la loi pharisienne. Quant aux zèles, persécuteurs de l'Église, irréprochables à l'égard de la justice de la loi. Il a continué comme ça. Il dit que c'est comme cela que je pouvais m'identifier. Si vous m'avez posé la question, avant que Christ ne transforme mon cœur, si vous me posez la question, qui est-ce que j'étais, je devrais mentionner telle chose. Une série d'identités religieuses. Mais il a continué par dire, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, quelles que soient les positions que j'avais, quelles que soient comment les choses là m'amenaient à me sentir bien par rapport à moi-même, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte. Je les ai regardées comme une perte à cause de Christ, à cause de la connaissance que j'ai faite de Christ. Vous voyez, avec la sanctification qui vient à travers Jésus-Christ. En d'autres termes, tu es soit identifié à Jésus, ou bien tu continues par t'identifier aux marques de ce monde. Et pour se retrouver en lui, Paul dit que toutes ces choses qui me paraissaient être pour moi un gain, je les ai considérées comme une perte. Et même je regarde toutes choses comme une perte. Et en Galates chapitre 4, il décrit notre ancienne identité, une phrase qu'il a utilisée. Il a utilisé comme des esclaves au rudiment du monde. Il dit, nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Il dit, il parlait à une audience large. Paul parlait de la religiosité, de son identité en tant que religieux. Il dit, toutes ces choses que le monde utilise pour identifier quelqu'un, ou également, ces choses-là sont l'esclavage des rudiments du monde. Il utilise cette même phrase dans Colossiens 2, 8, en parlant des philosophies de ce monde. Il dit, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde. C'est ce que l'apôtre Paul dit. Quand nous pensons à l'identité que nous saisissons, à laquelle nous nous accrochons dans notre monde, nous pouvons dire, il y a des gens qui peuvent dire que mon identité vient de mon travail, mon identité vient de ma famille. Je suis défini par rapport à qui mes amis sont. Je suis défini par rapport à qui je suis. Et même dans notre culture aujourd'hui, si tu es bien connu, vous savez, parfois, ces marques qui nous identifient nous amènent à savoir que ces choses sont bonnes. Il y a des marques qui nous identifient, qui ne sont pas des péchés. Mais il y a des identités qui nous lient à certains péchés. Mais l'apôtre Paul dit que ce soit un péché ou ce qui n'est pas compatible avec notre identité chrétienne, et même parfois quelque chose qui peut ne pas et qui peut être bon de sa nature. Il dit, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie s'appuyant sur les traditions des mondes, sur les rudiments du monde, les hommes, et non sur Christ. L'apôtre Paul dit que nous avons reçu un cœur nouveau, une nouvelle identité. Nous sommes maintenant identifiés d'abord avec le Seigneur Jésus-Christ. Nous ne sommes plus esclaves aux princes de ce monde, aux puissants de ce monde. Nous ne sommes plus esclaves aux passions de ce monde. Nous également utilisons les désirs de nos cœurs. L'apôtre Paul dit, nous avons une nouvelle vie que nous menons en Jésus-Christ. Vous savez, dans notre monde, dépendant des cercles dans lesquels nous nous retrouvons, de l'identité, les marques d'identité que nous avons quelque chose de nous-mêmes. Et dans tout ce que nous pouvons faire comme image de nous, l'apôtre Paul dit qu'il considère cela comme une perte parce qu'il a connu Jésus-Christ. Et la deuxième implication de cela, en réalité les implications sont plus de deux. Nous allons parler des autres implications dans les autres sessions, mais la deuxième implication de cette nouvelle naissance, en parlant en dehors de la nouvelle identité, c'est une nouvelle relation avec Dieu et avec d'autres personnes. Quelle est la relation que nous avons avec Dieu, quand nous quittons l'étape de mort spirituelle pour aller à Dieu, il dit, l'apôtre Paul dit que par nature, nous étions des enfants de colère. Et qu'est-ce qu'il dit dans Éphésiens chapitre 2? Nous sommes assis dans les lieux célestes en Christ Jésus-Christ. En d'autres termes, l'apôtre Paul dit que nous avons quitté cette position où nous devrions mériter le jugement juste de Dieu et que nous devons pécher, mais maintenant nous dépendons de lui. Nous n'allons pas être des éléments de la colère, mais dans les jours à venir, nous allons dépendre des richesses de Dieu dans sa justice avec la grâce en Jésus-Christ. Pensez à cela, ce changement. Avant, c'était des objets de colère. Nous méritions la colère. Maintenant, nous sommes mis à part pour démontrer la grâce immesurable de la grâce et du Seigneur Jésus-Christ. Vous pouvez imaginer cela. Je ne sais pas si c'est possible pour nous d'imaginer vraiment cela. Qu'est-ce que cela voudrait dire d'être ennemi de Dieu et mériter la colère de Dieu? Et d'une manière similaire, comment vous pouvez comprendre ce que ça voudrait dire d'avoir été choisi par Dieu, d'avoir reçu un nouveau cœur de Dieu pour que dans les temps à venir, qu'il nous cite comme des exemples de déversement de son esprit parmi ceux qui n'étaient pas dignes, ceux qui étaient indignes. Et ça, c'est remarquable, c'est un changement remarquable. Je voudrais mentionner ceci dans Éphésiens. Non seulement il y a un changement dans la relation avec Dieu à cause de notre nouvelle naissance, mais il y a un changement également dans notre relation avec d'autres personnes. La Bible dit que à cause de notre nouvelle naissance, à cause de cette nouvelle identité que nous avons en Christ, nous avons des frères et sœurs en Christ. Dans le livre d'Éphésiens, quand vous voyez Éphésiens chapitre 4, lorsque Paul a décrit cette vérité de salut et de la régénérescence, mais de la régénération, il dit que je suis prisonnier, mais je marche d'une manière digne. Qu'est-ce que cela vous pouvez dire pour toi, pour marcher d'une manière digne de la vocation céleste, la vocation céleste dont Paul parle, c'est que il a parlé de l'humilité, du fruit de l'esprit, l'amour, le pardon que nous avons en Christ, que nous marchons devant ensemble en tant que frères et sœurs en Christ et nous démontrons l'amour de Dieu l'un envers l'autre. Ça, un des plus grands fruits de la nouvelle naissance, ce n'est pas que nous avons une nouvelle relation avec Dieu, mais nous avons également une nouvelle relation avec les uns et les autres. Et peut-être, ce qui est très important, significatif, la Bible dit que non seulement nous sommes des frères et sœurs en Christ, nous avons été transformés par cette grâce de Dieu qui change notre cœur. Mais nous avons un frère, un grand frère à qui nous regardons. La Bible dit qu'il est Jésus-Christ. Hébreux 2 le dit de cette manière. Dieu lui-même, il dit que nous, lui-même, à travers sa mort, il a détruit, il convenait en effet que celui par qui ils sont toutes choses qu'il voulait conduire, nous sommes, car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Il parle de toi si tu es en Christ. Nous devons devenir comme ses frères pour que lui, il puisse devenir un souverain sacrificateur paisible pour faire les propitiations pour le péché du peuple, pour que nous puissions avoir cette sanctification. La nouvelle relation qui vient suite à la nouvelle naissance, cela implique non seulement une nouvelle relation avec Dieu, mais une nouvelle relation avec les uns les autres. Et C'est une relation merveilleuse avec le souverain sacrificateur Jésus-Christ à qui nous allons lorsque nous sommes tentés et que nous luttons. C'est lui qui est capable de sympathiser avec nos faiblesses parce que lui aussi, il a subi les mêmes choses. Et à travers la mort, il a détruit celui qui avait le pouvoir de la mort sur nous. Et ça, c'est juste gratter la surface de la nouvelle naissance. Et je vais vous dire que la gloire de notre salut, la gloire de la grâce de Dieu dans le salut, c'est cela a trait au pardon du péché. Et également, cela implique la nouvelle naissance qui est donnée, qui nous est donnée. C'est un don de Dieu. La nouvelle vie qui change la manière dont nous nous voyons, comment ce à quoi nous nous identifions et ce qui nous motive et celui à qui nous sommes connectés. Et tout cela, l'apôtre Paul dit, cela peut être résumé en ces termes, par la grâce, c'est par la grâce que nous sommes sauvés. Et bien sûr, il y a un autre aspect de ceci. La Bible est claire que lorsque le pécheur est né de nouveau dans ce monde, cela pourrait dire que d'autres personnes ne le comprennent pas, que plusieurs personnes le rejettent. La Bible nous enseigne que les croyants et les incroyants vivent dans des mondes différents. Ils mènent de vies différentes parce que il y a la lumière et les ténèbres. Ils sont dans de différentes familles. Ils ont les perceptions différentes. Et parce que cette personne est née de nouveau, il y a la séparation. Et il y a des conséquences que la personne peut subir. Mais la Bible dit, rappelez-vous, comme lui-même il a souffert lorsqu'il a été tenté, il est capable de nous aider, nous qui sommes tentés. Quel ami fidèle nous avons en Jésus. Quelle est cette œuvre merveilleuse que le Saint-Esprit a accomplie dans nos cœurs, qui nous a pris de la mort à la vie. Quel est ce Dieu merveilleux que nous avons, qui nous donne tout en Christ pour nous démontrer son amour. Prions ensemble. Seigneur, en considérant ce thème, nous prions que tu puisses intégrer cela dans nos vies, dans nos cœurs, que nous puissions comprendre cela, cette chose glorieuse, que toi, tu prends les pécheurs, que tu les transformes, que tu prends ceux qui étaient morts et tu leur donnes la vie en Christ. Père, nous ne pouvons pas comprendre ceci, mais nous te disons merci parce que tu nous as donné non seulement le pardon, mais tu nous as donné la nouveauté de vie. Et tu nous appelles à vivre dans la nouveauté de vie maintenant et à jamais. Au nom de Jésus-Christ, Amen.